Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw, nous sommes le 18 octobre. Nous sommes en Californie, à Sacramento. Et avec moi pour l'analyse de ce show rouge, j'ai Tonton Chris. Salut Tonton.
Sacramento, il fait toujours beau. Salut le patron, salut le peuple de catch-up, bienvenue pour le Go Home Show qui va nous emmener en Arabie Saoudite, mon bon patron. Que du bonheur, encore du soleil.
Ouais, ouais, 50 degrés à l'ombre. Ils vont être bien là, nos catcheurs.
Bon, climatisé, je pense on va être, hein, sans problème. Hein.
Sortez les ventilos.
Ils sont dans un stade, ils sont dans le même stade ou ils sont dans un truc couvert? Ah non, je crois qu'ils sont dans un stade encore.
Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait eu de grands changements en termes de logistique. Hein.
Ouais, ouais. Écoute. En tout cas, écoute, ce 1482e Monday Night Raw était censé nous annoncer la couleur pour ce qui va se passer jeudi soir.
Ouais, ouais, focus hein, sur le booking, sur la carte là, de Crown Jewel. On va voir s'ils ont fait un aussi bon boulot qu'à SmackDown. Hein. Je vous invite à écouter notre analyse avec Papy. On avait plutôt bien apprécié cet épisode hein, puisqu'il était assez focalisé justement sur la carte de Crown Jewel. Bon, alors, ça commence mal, je serais tenté de dire. Puisque c'est Charlotte qui ouvre le show, alors que Charlotte n'est pas sur la carte de Crown Jewel. Elle n'est pas contente, Charlotte. Elle n'est pas contente, notre reine, puisqu'il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de confetti, parce que c'est sa dernière apparition à Monday Night Raw. Et oui, elle a été draftée à SmackDown. Donc, il y a une théorie de conspiration contre elle là, qui flotte dans l'air. La preuve, Bianca Belair n'est même pas dans le roster de Raw et elle a encore des title shots. Elle n'arrête pas d'avoir des title shots à gauche, à droite. Charlotte a dit « Vous pensez que c'est moi la reine et c'est à moi qu'on ouvre les portes aussi facilement ?» Elle arrive. Enfin, le problème pour Charlotte, la difficulté pour Charlotte, c'est qu'elle est autant adulée que détestée. Et j'ai trouvé que dans cette promo, elle avait quand même réussi plus ou moins à gérer la foule, à retourner une partie de la foule contre elle. Donc ça, c'était plutôt bien foutu. Charlotte est la montagne à gravir. Et pour Bianca Belair, ça va être compliqué. Elle peut gérer des filles comme Becky Lynch et Sasha Banks. Mais Charlotte, elle est faite d'un autre bois. Ce qui n'est pas évident. Et Bianca Belair débarque à son tour. Elle explique maintenant que Charlotte est parano. Bianca, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour gravir les échelons. Elle mérite ces title shots dont Charlotte a parlé. Charlotte a été sauvée grâce à Becky la dernière fois. Et Charlotte, du coup, est frustrée à cause de ça. Et Bianca nous fait une promesse que Crown Jewel, elle va récupérer le titre. Et Charlotte commence à vouloir en venir aux mains et Bianca Belair l'accueille avec un Kiyodi, mais la reine parvient à s'enfuir, même si Bianca Belair en profite pour lui mettre les semelles dans la tronche. Et c'est comme ça que les deux femmes se séparent. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, mon bon tonton ?
C'était plutôt pas mal. Moi, j'aime plutôt bien quand Charlotte, quand elle fait ses entrées comme ça, qu'elle arrive sur le ring. Et qu'elle taunte un peu tout le public du soir. Tu vois qu'elle prend la température. Et c'est vraiment la patronne, quoi. C'est vraiment elle, hein, la grande, grande patronne. Et je trouve que... j'ai bien aimé le fait qu'elle dise « Ouais, il n'y a pas de chant, merci Charlotte, de la part de la foule. » Tu vois, finalement, elle se présente presque un peu en victime par moment. Mais tout ça avec d'une manière hautaine et avec son port altier, là. Et je trouve qu'elle est incroyable, cette femme, quoi. Tu sais, Charlotte, hein, mon bon patron, dans 30 ans, tout ça, quand on aura pris notre retraite de catch-up, que des petits jeunes auront repris la boutique, eh ben, on en reparlera avec des trémolos dans la voix, hein, parce que je pense que ça va peut-être rester la plus grande... Ça sera peut-être la plus grande wrestler du 21e siècle, Charlotte, tout simplement. Peut-être que, tu vois, elle va terminer avec 22 titres. Et voilà. Et puis, j'aime bien l'interaction avec Bianca Belair, etc. Petite bagarre à la fin, tout ça. Donc, c'était plutôt solide. Ça mettait bien dans l'ambiance. Moi, on va en parler plus tard dans les pronos de Crown Jewel, mais je pense que je vois pas Belair gagner. On en reparlera. Mais en tout cas, je trouve que ça faisait démarrer plutôt pas mal ce Raw. J'ai plutôt bien apprécié cette affaire.
Ouais, ouais, puis Bianca qui s'en est pas trop mal tirée aussi. Voilà, on la book dominante également. Et pour Crown Jewel. L'heure est aussi au tournoi, mon bon tonton. Je sais que voilà, tu es.
Tournoi, ben.
Tu es. Oui.
Non, je suis, oui, je suis partagé en fait, mitigé.
Eh oui, tu es mitigé, mitigé. Alors, si tu veux bien, on va commencer du côté des garçons, puisque ce soir, on avait l'autre demi-finale qui voyait s'affronter, qui a vu s'affronter Jinder Mahal, Xavier Woods. Alors, une petite
Oui.
séquence backstage à Xavier Woods qui nous rappelle voilà, toute la lignée prestigieuse hein, de la royauté à la WWE. Alors, il balance des noms, pas forcément les noms les plus qui ressortent le plus souvent, et il nous place un Shamrock. Hein, voilà, rappelez-vous, un Shamrock avait été King of the Ring. Il doit nous placer aussi un Booker T. Bon, celui-ci, on nous le connaît bien, hein, on nous le rappelle suffisamment. Et deux, trois autres noms, comme ça, King Mabel aussi. Donc, Kofi Kingston. Ouais, donc il y a eu beaucoup de rois à WWE. Kofi Kingston, il nous a placé une qui était pas mal aussi. Il nous dit que Martin Luther King avait un rêve, mais que le rêve de Xavier Woods et d'être roi, donc d'être le king. Donc c'était plutôt bien foutu. Donc Xavier Woods est prêt à aller sur le trône et c'est probablement le mec le plus motivé à aller choper la couronne, je pense, de tout le roster. Et ce soir, il va nous en faire la preuve dans son match contre Jinder Mahal. Un match que j'ai trouvé, écoute, pas trop mal, avec toute la puissance de Jinder Mahal, hein, qui est immense, hein, quand il est face à des gabarits comme Xavier Woods, on voit que le mec, quand même, il est probablement un des plus grands de tout le roster. Hein. C'est un sacré morceau, Jinder Mahal.
Xavier Woods, il est pas très grand, mais il est épais hein, quand même. Hein.
Il est trapu. C'est un
Et
peu
ouais.
trapu.
Bon gabarit, un bon talonneur de rugby, ouais, ça aurait été un beau gabarit quand même, le Xavier Woods.
Il faudrait vraiment que tu nous fasses le roster de la W2 en mode équipe de rugby. Tu l'avais pas fait ça sur les CDC?
Si,
T'avais pas
si,
fait?
ouais, si, si, j'avais participé à ça, ouais. Ah ouais, ah, j'étais pas tout seul, hein, mais on avait été plusieurs, ouais, effectivement, on avait fait. Il faudrait que je le refasse à l'occasion, ouais. Avec toutes les nouvelles têtes, là, c'était. Ouh, c'est parce que c'est vieux, ça, cette histoire de 15, le 15 de la WWE. Et c'était à l'occasion pour la Coupe du Monde, je crois, 2015, je crois. Pour la Coupe du Monde 2015, on avait fait un 15 spécial, qui était pas mal, mais effectivement, c'est une idée à creuser.
Ah, donc cette version mise à jour, Xavier Woods aurait donc toute sa place.
Tout à sa place, ouais, je pense que je le mettrais numéro 2, au talonnage.
Ça change donc des coups d'épaule, les athémies. Jinder Mahal fait parler sa puissance, Xavier Woods fait parler sa vitesse hein, et toute sa
Il
motivation.
est véloce.
Il est véloce, il va vite, il absorbe les coups, il passe quand même à un moment donné par-dessus la troisième corde. Là, Jinder Mahal en profite pour prendre tout le momentum. Il lui met des gros coups de poing là. Il lui place notamment, hein, il lui brise les côtes, il le tord dans tous les sens, il lui brise le dos, il lui fait des descentes de coups de genoux. Non, eh ben non, ça passe pas. C'est là que Xavier Woods reprend un peu le momentum. Et alors que Jinder Mahal place son calas, Xavier Woods s'en sort par un tour de passe-passe. Grippe la corde et après, voilà, c'est direction la troisième corde, la descente du coude, Macho Man style et la victoire pour Xavier Woods qui
Oh
se
yeah!
qualifie donc pour la finale. Est-ce que tu es content?
Oh yeah! Alors là, bah écoute, si le peuple de catch-up me suit régulièrement sur cette antenne, hein, au tout début du tournoi, j'avais donné mon favori pour le tournoi. Quasiment tout le monde avait donné Finn Balor, mais moi, j'ai mis une pièce sur Xavier Woods. Et on en reparlera encore dans les pronos. Mais ouais, mais au final, bon petit match, un match de 10 minutes quasiment. Et bon petit match sympa et qui était assez avec relativement du suspense parce que Jinder Mahal, c'était tout à fait crédible qu'il aille en finale du King of the Ring, un heel naturel qu'aurait pas démérité de toute façon d'avoir son spot en Arabie Saoudite, on va dire. Et au final, et bah, les deux mecs nous ont livré la marchandise. Ouais, alors effectivement, ce super finisher de notre ami. De notre ami Xavier Woods qui le détourne un petit peu parce que le Macho Man lui sautait vraiment du haut du turnbuckle alors que lui il fait un petit pas de côté et il prend son élan, il fait en fait il fait un slingshot presque, il fait un slingshot diving elbow quoi. Mais magnifique, à chaque fois superbe. Donc moi j'ai vraiment bien aimé ce match, c'était top, ça faisait rentrer dans le show de manière parfaite et du côté masculin, ce tournoi King of the Ring, pour l'instant, pour moi, est une réussite et, ma foi, une fort belle finale entre Finn Balor et Xavier Woods.
Ouais, bah d'ailleurs, ils se retrouvent un petit peu plus tard, je crois, tout ce beau monde, lors d'un match. Bah écoute, si tu veux bien, je vais en parler.
Oui,
Finn
vas-y,
Balor
vas-y.
contre Mace. Alors, voilà, Finn Balor, voilà, il fallait nous montrer que Finn Balor était
T'es
là.
fort!
Était fort, il avait tué un mec, un grand, un costaud, qui est Mace dans un match. Oh, toi qui tiens les comptes, il n'a pas duré très longtemps ce
2
match.
minutes 45.
Voilà, donc Finn Balor qui a placé son coup de grâce. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est ce que juste derrière, il y a eu un petit échauffement, petite tension, un petit peu de compète entre Finn Balor et Xavier Woods, puisque Xavier Woods a regardé ce match en étant assis sur le trône. Il se voit déjà roi à la place du roi, là, Xavier Woods. Hein.
Xavier Woods, il est chaud sur le King of the Ring, mais avant même que le tournoi débute, de toute façon, sur Twitter, etc., il envoyait du lourd en clamant haut et fort l'héritage et tout. Et je pense que c'était certainement l'un des plus archi-motivés du tableau. Et non, ça me fait plaisir. Moi, je trouve que c'est bien. On va avoir un chouette match pour Crown Jewel. On va avoir vraiment une belle finale. Donc ça, c'est sympa. Indécise. Et ça, c'est encore plus sympa, surtout dans le catch.
Ouais, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que au-delà de la qualité du roster qui a été inclus dans ce tournoi, on a quelques petites surprises. Comme tu dis, finalement, le dernier carré, c'était des beaux prétendants, il n'y avait quasiment pas de mauvais choix et ça ajoutait pas mal d'inconnus, toi, de surprises. Et Xavier Woods, autant il y a une semaine ou deux, je me suis dit, tiens, Finn Balor, ouais, c'est vrai, c'est presque fait pour lui, mais ça, c'est parce que je me laisse trop facilement convaincre par Papy. Autant j'aimerais beaucoup voir un Xavier Woods avec la couronne, c'est un mec qui va vraiment être divertissant, tu vois.
Pour moi, dans le tournoi masculin, il y a eu un seul couac, quoi. C'est le fait d'avoir fait hisser Sami Zayn jusqu'en demi-finale, jusqu'à la finale d'Euro, finalement. Parce que Sami Zayn, tout le monde savait bien qu'il n'allait pas aller en Arabie Saoudite, quoi, que c'était clair et net. Donc, quelque part, c'était un petit peu la voie royale pour Finn Balor. Mais c'est pas grave, parce que les matchs ont été de bonne qualité et tout ça. Le Cesaro, ouais. Le Baylor Zayn a été de super qualité. Ça nous a donné un beau tournoi, enfin vraiment côté masculin, le tournoi est superbe, moi j'ai rien à redire, je suis fan, j'accroche à mort et je suis hyper satisfait de cette finale.
Ouais, direction les backstage, il y a eu de bordel avec toute la team 24-7, il y a aussi une théorie qui était en interview, et puis du coup ça chauffe un petit peu avec R-Truth, et du coup ça nous amène derrière avec dans un match entre Austin Theory et R-Truth. Mais R-Truth a une petite surprise puisqu'il débarque avec Jeff Hardy en fait. Il débarque avec Jeff Hardy qui est donc à Monday Night Raw dorénavant. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il a été transféré à Raw. Ouais, faut suivre. Hein. Vivement la semaine prochaine.
Ouais, ça sera plus clair la semaine. Ça sera plus à partir de vendredi. À partir de vendredi, ça sera plus clair.
C'est-à-dire que quand t'as des mecs qui arrivent une pop, tu sais pas si c'est parce que c'est leur dernier jour ou si c'est parce que c'est leur premier jour.
Ouais.
S'ils viennent transférer ou si s'ils viennent juste nous faire un petit coucou. Et du coup, le match, finalement, ce n'est pas Austin Theory contre R-Truth. C'est Austin Theory contre Jeff Hardy. Et ouais. Et du coup, Austin Theory finalement nous propose un match assez solide face à l'ancien champion du monde. Mais au moment où Jeff Hardy veut placer son adversaire pour la Swanton, Theory le fait glisser depuis la troisième corde et place son finish pour la victoire. Et ouais, donc encore une belle victoire là pour le petit Jeannot, mais une victoire, une célébration de courte durée puisque Jeff Hardy lui place un twist of fate et pire rajoute finalement la honte derrière à Austin Theory puisqu'il lui prend un petit selfie avec Austin Theory alors que Austin Theory est allongé sur le sol. Donc on en est où là de cette petite rivalité rookie versus vétéran? Qu'est-ce que tu en penses là?
Bon, là, je pense qu'on en est juste, on est dans de la rivalité de mid-card. Ils sont en train de créer le personnage petit à petit d'Austin Theory. Eux ne sont pas concernés par le pay-per-view de la couronne de joyaux. Donc, du coup, ça se construit tranquillement. Je trouve que c'est plutôt honorable de la part de Jeff Hardy comme ça de vendre un jeune de cette manière-là. Donc, écoute, on verra pour la suite. Je pense que ça va déboucher certainement sur un match pay-per-view. Peut-être pas forcément un match pay-per-view. Peut-être aussi qu'ils sont dans une équipe pour les Survivor Series à suivre. Mais, écoute, ça me dérange pas. C'est pas extraordinaire. On a eu un match de 7 minutes. Jeff Hardy, il déroule quand même encore un peu.
Il nous a fait des passes sorties.
Face à un jeune qui est quand même beaucoup plus athlétique que lui, quoi. Et qui est vraiment New Generation, là, le vrai Millennials. Et du coup, c'est pas, c'est, je peux pas vraiment dire du mal, tu vois, de ce genre de truc, quoi. Pour l'instant, pour moi, vraiment, Austin Theory, c'est vraiment, alors, pour le coup, un jeune et un vrai rookie en plein personnage, en pleine construction. On verra, on en reparlera d'ici un mois ou deux déjà.
Moi, j'ai trouvé effectivement que c'était un bon petit match, court et intense. Et voilà, on anime la low card ou la mid card. C'est vous qui placez le curseur comme vous le voulez. On va laisser la low card ou la mid card justement et, en direction de des main eventers, qui se retrouvent un petit peu. Je sais pas à quel moment on était du show là. On était presque au plein milieu, fin de la première heure, début de la deuxième peut-être. Pour un match qui est booké suite à ce qui s'était passé la semaine dernière, puisque Drew McIntyre et Big E, votre champion, affrontent les Dirty Dogs, Robert Roode et Dolph Ziggler. On a une petite intervention, Gorilla Position, là, où ils se disent ce soir, voilà, ils vont travailler ensemble, hein, voilà, malgré leur rivalité en cours. Et Big E, par petite provocation, fait sa grosse entrée là, au micro, hein, au Sacramento, Don't You Dare. Et McIntyre, lui, fait sa petite pause. Voilà. C'est de la. On s'entend bien, mais en même temps, on est rivaux. Donc, direction le ring, avec Big E qui commence le match. Il affronte Dolph Ziggler, je crois, pour l'entrée. Tour de force, le tag est fait avec Drew McIntyre qui arrive et qui s'en prend à son ancien partenaire, son ancien mentor, hein, n'oubliez pas. Après, c'est Robert Woods qui vient prendre les mandales à la place de Dolph Ziggler. Donc, beau travail là, de tag entre Big E et Drew McIntyre, contrairement à ce qui s'était passé peut-être la semaine dernière. Mais Big E vient à un moment donné, il veut mettre un splash et il s'étale, il balance Dolph Ziggler par-dessus la barrière d'insécurité. Et là, ça commence un peu à perdre le momentum pour les face. Big E est en détresse, il se fait malmener par les Dirty Dogs, c'est comme Dolph Ziggler en face, hein. Faut pas oublier, hein. c'est un patron Dolph Ziggler.
Ah, un grand Sam Champion.
Eh ouais, ils portent très bien là, ils sont en slip et en pantalon rose, ils sont magnifiques. Mais le hot tag arrive, et alors là l'Écossais arrive, et là c'est autre chose. Hein. Quand l'Écossais, le psychopathe écossais dans la place, et eh ben ça délivre des souplesses à gauche, à droite, par-dessus, par-dessous. Dolph Ziggler se retrouve étalé sur son pote. Et quand le tag arrive, eh ben, c'est loupé. Et Robert Roode en profite pour placer un spinebuster sur l'Écossais qui, cette fois-ci, commence à mordre un petit peu la poussière. Hein. Big E, à ce moment-là, il est un peu à l'infirmerie. Et Big E place son finisher sur Dolph Ziggler. Les deux hommes se toisent. Les deux futurs adversaires de Crown Jewel se toisent. On se serre la main, mais il y a de la provocation. Ils sont là, ouais, je suis impatient d'en finir avec toi, moi aussi je suis impatient d'être à jeudi soir. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là pour chauffer un petit peu Big E et Drew McIntyre?
C'était cool, 13 minutes, ils ont envoyé la marchandise, c'était presque un spot fest ce match, quoi. Et c'était cool, hein, avec les Dirty Dogs quand même, qui est une sacrée équipe malgré tout. Et puis avec cette historique un peu justement entre Dolph Ziggler et Big E, bien rappelé aux commentaires, par nos amis Corey Graves et compagnie, et c'était donc du coup plutôt cool. Effectivement, en plus il y a de la tension entre Big E et Drew McIntyre, donc ça crée tout un boxon au fur et à mesure du match. C'est ça qui est bien, c'est que c'est monté en pression au fur et à mesure, parce qu'au départ, effectivement, les 4-5 premières minutes du match, ils bossent vraiment bien ensemble comme une vraie équipe. C'est ouais. Cool, et puis avec notre super seller qui est le dauphin, franchement ça donne du bois, quoi. Et Robert Roode pareil, hein, un vétéran mais qui a des super boresses, qui est hyper fit, qui est vraiment c'était vraiment un plaisir ce match. Et voilà, pour moi la hype est là pour le Big E versus McIntyre, donc mission accomplie.
Ouais comme je l'avais déjà dit, je suis toujours assez dubitatif sur cette rivalité, parce qu'elle est un peu compliquée pour Big E, je trouve, de le mettre face à un autre face avec Drew McIntyre. Ils ont eu des promos un petit peu en dedans, mais j'ai trouvé qu'à l'inverse, ce match était plutôt bien booké, assez original. On a vraiment eu, on n'a pas fait le coup de genre Drew McIntyre qui abandonne Big E, ou c'est ficelle classique, quoi, où les mecs s'abandonnent. Ils ont vraiment réussi à travailler ensemble, ce qui a montré que les deux mecs étaient forts, étaient prêts, et finalement, à la fin, t'arrives encore plus à vouloir voir ce match, parce que c'est les patrons, quoi. C'est les patrons, et les patrons, ils perdent pas, et les patrons, ils sont focus, et ils sont...
Ouais, c'est ça, ouais. Ils gagnent le match, quoi, tu vois. C'est pas comme si le truc c'était fini par une DQ ou un count-out ou des choses comme ça. Non, ils gagnent le match et tout, quoi. Donc, dans un sens, c'était propre, quoi.
Ah ouais, non, 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 c'était propre. Bon, une autre rivalité qui t'enchante, j'en suis sûr, c'est celle qui oppose Mansour à Ali. Bah écoute, je pense que
Oh.
ce soir, il voulait nous rappeler que Mansour Ali allait s'affronter à Crown Jewel et que Mansour, il était chaud. Du coup, bah, Mansour, il a disposé de Cédric Alexander très rapidement en plaçant son neckbreaker, là, son slingshot neckbreaker en finish. Et Mustapha Ali est venu après le provoquer avec son sourire narquois en disant que bah, jeudi soir, il allait le faire taire une bonne fois pour toutes. Mansour, lui, a pris son micro et puis il était chaud aussi. Il lui a dit ferme-la, c'est moi qui vais te la fermer justement ce jeudi. Donc les deux hommes sont prêts à en découdre en Arabie Saoudite.
Victoire expéditive de Mansour de toute façon et ouais alors j'ai vu que un petit fait dans cette histoire de rivalité là c'est que Mansour Ali ça va être la première fois dans l'histoire de la WWE que deux musulmans deux catcheurs musulmans s'affrontent dans un pay-per-view. Et c'est même pas à la WWE qu'on fait de la publicité ou quoi que ce soit, c'est un truc qui est relevé en fait dans les journaux américains beaucoup plus traditionnels.
Ah, bah écoute, j'ai l'impression qu'il y a des premières toutes les semaines à la WWE, donc est-ce que la WWE serait-elle plus progressiste qu'on voudrait nous le faire croire?
Un long débat.
On va rajouter ça sur la pile des
Ouais.
sujets du comptoir du catch pour
Voilà.
Ringside et Raphaël.
Pour l'instant, on en est à 800 feuillets, donc allez, un de plus ou un de moins. Hein.
Écoute, derrière, il y a eu une interview par écran interposé entre Goldberg et Bobby
Ouais.
Lashley.
Ouais.
On s'en fout un petit peu.
Ouais,
Hein,
franchement, OSEF, mais alors, mais complètement. Moi, je te le dis, hein. Moi, j'ai regardé ça en tournant d'un œil mon café, tu vois, en même temps, et en me disant, mais oh là 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 là, allez, que ça se
Argent.
termine.
Ouais, j'en parle juste pour te faire plaisir parce que la semaine dernière tu m'en avais voulu parce que j'avais oublié le segment de Bobby Lashley. Donc là j'ai
Mais parce
noté en
que.
gros, j'ai
Je pensais.
surligné de pas oublier parce que tonton il va me la faire à l'envers et il va
Ouais,
me
mais parce
sortir
que je
ça
pensais
pour
pas
avoir des
qu'ils allaient faire la
top
même chose, quoi. Je pensais pas qu'ils allaient nous refaire quasiment la même chose, du pareil au même. Enfin bref, ceux-là, on veut les voir dans le ring, on veut voir la barbaque dans le ring et on veut voir Goldberg se faire hacher menu. Voilà.
Ouais.
Par le
Ouais,
Hurtlock. Allez!
on
Allez!
veut pas aller
Allez,
voir des spectacles.
Bobby! Allez, Bobby! Allez, Bobby!
Direction la scène tag team. Alors, on a eu une première ouais, petite promo backstage des Street Profits qui sont chauds là. Ils veulent toujours la
Complètement.
fumée. Ils veulent toujours la fumer. Et un petit peu plus tard, on a eu la même chose avec Randy Orton et Riddle. Riddle qui pense que Randy Orton enfin mériterait pardon un Kid Choice Awards voilà pour ce qu'il a fait la semaine dernière. Voilà, direction, le plan pour ce soir, c'est d'affronter les Street Profits. Les Street Profits qui affrontent RK Bro dans un match à
Festival!
Montréal. Et Nitro, c'est le festival, tu as compté, il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs ce soir. Voilà, encore un gros spot fest là, avec bah, des sacrés athlètes en fait, hein, entre les cordes. Supervisé par Tonton Randy, hein, le vétéran. C'est Riddle et Montesfort qui s'affrontent. Donc voilà, des grands mecs élancés très athlétiques qui s'envoient à droite à gauche. L'action continue un petit peu en dehors du ring avec ce super saut là de Riddle. Et puis encore un autre saut à l'extérieur du ring de Montesfort qui défie les lois de la gravité. Riddle, il nous fait. Tournoyer Montesford, là, il nous fait une espèce de Cesaro, là. Hein. Il fait le manège enchanté à Montesford qui est sur le point de vomir, hein, le pauvre. Mais Montesford parvient malgré tout à faire le tag avec Hawkins, hein, qui est devenu le roi du hot tag. Hawkins qui, bah, chaque année, m'impressionne un peu plus. Hein, comment dire, il s'améliore de semaine en semaine. Puis c'est au tour de Randy Orton, là, le vétéran d'entrée, et là, c'est plus la même mayonnaise. Il s'apprête, il fait sa pause pour placer son RKO, mais la musique d'Omos et de AJ Styles retentit. Omos est là pour faire la diversion. AJ Styles place son phénoménal forearm, ça cause la disqualification, c'est le bordel. Et Omos et AJ Styles voilà, sont debout face avec à leurs pieds Randy Orton. Randy Orton, il essaye de revenir, mais Omos lui met voilà, un coup de pierre tourné en pleine poire. Et il se retrouve allongé Donc la rivalité continue entre R. Cabro et AJ Styles et Omos. Ils ont un match à jeudi.
Eh ouais, ils ont un match à jeudi. Bah écoute, c'était cool. Et bah alors là, encore une fois, j'étais très enthousiaste décidément dans ce Monday Night Raw. J'ai trouvé ça vraiment bien sympa. Aucun étonnement que ça se finisse en no contest quoi. Après, ça a presque été un petit peu court, 10 minutes 30. J'en aurais bien pris 3-4 minutes de plus. Alors déjà, les Street Profits, j'étais pas là pour votre analyse, mais je vous ai écouté pour votre analyse de SmackDown. Mais déjà, le match des Uso et Street Profits, ça a été un match monstrueux vendredi soir. Vraiment, j'ai adoré ce match. Alors, je crois que je m'en suis ému sur le Discord de la communauté Catch-Up. Et là, à nouveau, encore une fois, les Street Profits vraiment livrent la marchandise encore là face aux vétérans et puis face aux Riddle là. C'était quelque chose. L'intervention, elle est de bonne aloi, on l'attend tous, on sait que ça va se passer comme ça. De toute façon, on book, on est dans le go-home show de Crown Jewel, donc je trouve que c'est du travail bien foutu. J'étais entertainé, monsieur le patron.
Oh bah écoute, moi aussi, je trouvais que... Ah, finalement, alors, attends, mais excuse-moi, mais entre Bianca Belair et Montez Ford, qui sont époux et épouses à la ville, comme à l'écran, parce que je crois qu'ils s'en cachent pas, là, ils enchaînent, ouais. Hein, c'est les back-to-back pour les deux. Je sais pas s'ils ont encore beaucoup d'énergie le soir, hein, quand ils rentrent à la maison, les deux-là, mais on verra ça dans 9 mois. Hein.
Bon. Allez, Street Profits, hein, pour moi, là, grande... Grande équipe en 2021 quand même, hein, quand on va la Tag Team Division, mine de rien, on est à la fin octobre, là. Quand on va arriver sur les awards et tout ça, les Street Profits vont avoir leur nom tout en haut, parce qu'il y a quelques matchs cette année en Tag Team Division avec les Street Profits, que ce soit dans le show rouge ou le bleu, ça envoie quoi. Ouais. Même si bizarrement, je regardais, je crois que Papy avait rappelé cette stat, bizarrement ils ont très peu catché en pay-per-view cette année. Souvent en fait les rivalités, les croisements de rivalités, etc., ont fait qu'à ces moments-là, ils n'étaient pas là. Mais par contre, ils ont délivré un nombre de matchs en weekly qui est assez incroyable. Je crois que c'est l'une des équipes qui a le plus catché en weekly de l'année 2021 jusqu'à présent. J'avais regardé, j'avais vu passer la stat aussi. Vraiment fantastique, super boulot là.
Ouais, y a une espèce de travail de fond qui est fait sur cette équipe où finalement, comme tu dis, si on les voit pas en pay-per-view. Et alors, on les oublie presque, en tout cas ils sont assez. Enfin, ils sont discrets du coup. Oui et non, parce que comme tu le dis, on les voit tout le temps en weekly, mais il y a un beau travail de visibilité qui est fait sur ces mecs-là. Et du coup, c'est presque ni vu ni connu qui sont placés tout en haut de la carte et peuvent rivaliser avec les Uso dans un super match à SmackDown, où là voilà ils font pas tâche face à des vétérans comme Randy Orton j'allais dire Riddle, c'est pas forcément un vétéran, mais voilà, c'est une équipe bien installée, c'est les champions, et c'est vrai que tu as raison, ils avaient été dans notre top 3 hein, je crois quand même en 2020, et là ils auront tout à fait petite piécette là, sur les Street Profits pour la fin de l'année. Un peu moins sur les Viking Raiders. Hein, c'est la blague. Hein, c'est la blague. Ils ont une petite scénette avec un de tes chouchous. Là. Je ne sais pas ce qu'il fait, qui fait des cours de yoga. John Morrison, qu'on est rendu à faire des scénettes.
Ouais.
C'est pas très glorieux, mais bon, on en est là. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez. Direction.
John Morrison, juste un truc qui sert à rien, mais John Morrison, je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Je sais pas si tu connais Bat in the Sun, qui est un YouTuber qui reprend en fait des trucs de DC Comics, de Marvel, etc., qui a des scènes de combat entre différents super héros. Donc tu peux avoir Batman versus Wolverine, tu vois, des choses comme ça. Alors c'est pas un dessin animé, hein, c'est pas un animé, c'est un des vrais acteurs qui jouent avec les costumes et tout. Bat in the Sun, si ça vous intéresse. Et en l'occurrence, John Morrison participe à un de ses courts-métrages. C'est des trucs qui durent entre 8 et 15 minutes. John Morrison fait le Winter Soldier, vois-tu, dans un. Je sais plus. Alors, contre qui c'est qu'il affronte? Ah, je sais plus. Ah, j'ai perdu son adversaire. C'est John Morrison qui fait Winter Soldier avec son regard intelligent.
Ah attends, il a quand même eu une carrière à Hollywood. Il avait incarné, je crois, Hercule ou
tout à fait
dans une production à petit budget. Mais il a goûté au plaisir.
Hercule avant The Rock. Il faut le savoir.
Bien sûr, un précurseur. C'est lui qui a ouvert les portes d'Hollywood.
Exactement.
Pour Johnson, hein. Exactement. Il a essuyé un peu les plâtres, mais. Voilà, il est revenu à WWE et peut-être tant mieux pour nous.
Et pendant ce temps-là, le Miz continue à sa progression à Danse avec les Stars, se déguise en Aladdin et il est qualifié. Il est toujours qualifié, hein, le coco.
Ah, c'est incroyable ça. Bah voilà, bah on lui souhaite de gagner, on lui souhaite d'aller loin, hein, le Miz.
Bah ouais.
Je vote pour lui, hein, même si je, si je pouvais, je voterais pour lui en tout cas. Je sais pas si tu as voté pour Doudrop.
On arrive sur le sujet qui fâche dans ce Monday Night Raw, dans ce vaisseau amiral qui m'a mis en colère.
Désolé, j'entendais à ta voix, t'étais trop content, tu nous parlais de John Morrison, t'étais en train de nous faire sa biographie filmique. Je me suis dit, je vais un peu le casser l'ambiance, je vais lui parler du tournoi féminin.
Aïe,
comme tu l'as dit, donc Doudrop versus Shayna Baszler, sous les yeux de Zelina Vega, à qui la cape et la couronne va très bien, je l'ai dit lors de l'analyse de SmackDown. Pour moi, c'est le bon choix à faire, mais on n'en est pas là. On en est à la qualification, donc à cette dernière demi-finale, hein, du groupe B, et ça va mal se finir. Ça va mal se finir pour celle qui pouvait prétendre naturellement à être la queen, puisqu'elle est déjà la queen of spades. Et ben non, ça se passe mal pour Shayna Baszler, puisqu'alors qu'elle porte sa prise de soumission, et ben elle se fait avoir et ses épaules sont cloué au sol par Doudrop, qui donc se qualifie pour la finale. Doudrop versus Zelina Vega, c'est la finale que vous n'auriez pas imaginé il y a 2 mois, pour quand on a annoncé le premier tournoi féminin de Queen of the Ring.
Non mais là, c'est le drame. C'est le drame, peuple de catch-up. Au secours. Non mais franchement...
Chute à l'avant, à l'arrière, au milieu du...
Ah non, mais là c'est une catastrophe absolue. De toute façon, là, c'est même pas une question de Doudrop Shayna Baszler. Alors que Shayna Baszler perde, pour moi, est un non-sens, mais absolu. Enfin, je veux dire, quand t'as une catcheuse dont le surnom, c'est quand même le Queen of Spades. Et qui est certainement la plus... qui donne la sensation de plus grande dangerosité, d'agressivité... Et elle perd face à Doudrop. Alors bon, ok, d'accord. Mais en fait, la palme, elle revient à l'ensemble du tournoi féminin qui a été catastrophique de bout en bout. Je crois qu'on dépasse même pas les 13 minutes de catch. Tout le tournoi confondu jusqu'à en attendant la finale. Et la finale Doudrop Zelina, mon patron, hein, jamais tu vas me faire croire que ça va être un match de 15 minutes dans une cage. Je pense que là, c'est mort. Tout espoir sont ruinés, donc non, c'est pas possible. Donc c'était catastrophique, le match a été catastrophique. 2 minutes 45, non, vraiment là, non. Bah, alors là, moi, je pense que là, c'est un foirage, mais alors, d'une beauté. Puis c'est vraiment pas sympa pour la division féminine. Franchement, je trouve que avoir un tel main event, on en a déjà parlé ensemble, quand on a un tel main event picture chez les femmes et que derrière, comme on traite la low card et la mid card à la WWE, bah, c'est tout simplement pas possible. Je suis scandalisé. Moi, je voulais Shayna Baszler, Queen of the Ring. Et bah, c'est pas ça qu'on aura. On aura Zelina ou Doudrop. Mais alors là, par contre, pour le coup, pour te donner ma favorite, je suis bien marié de te le dire.
On en reparlera dans les pronos.
Ouais, on en reparlera dans les pronos, ouais.
Bon, allez, si tu parlais du main event.
Oui.
Bah là, c'est du main event. Là,
oui,
c'est
oui.
Ça, c'est au-delà 4.
Là,
ça,
je
c'est
suis
la
d'accord.
Vraie division féminine.
Là, je suis d'accord. Tu me vends du rêve, mon patron.
Là, je pense qu'à WWE, à l'heure actuelle, on ne peut pas lui retirer ça. Les meilleures superstars féminines sont à la WWE, la meilleure division féminine en termes de haute carte, hein, de main event. C'est à la WWE.
Oh bah oui, mais bien sûr. Non, mais là, il n'y a même pas photo de toute façon, quoi.
Là, combien de semaines là que les filles font le main event des weekly, hein? J'ai l'impression que ça fait
4-8
semaines. Allez, 10 mois. Ça fait 10 mois qu'elles sont en main event des weekly. Et on ne se pose pas la question, elles délivrent la marchandise une fois de plus.
Et Bianca Belair rajoute un main event à sa collection, hein, à Raw et à SmackDown. Hein.
Faut qu'elle se trouve un surnom, toi, comme c'était Jey Uso Main Event, Jey Main Event.
Ouais, Jey Main Event, ouais.
Elle pourrait être Bianca Main Event, quoi, parce qu'effectivement, là, elle enchaîne, et puis elle toujours avec des grosses prestations, une fois de plus ce soir, on en a eu pour notre argent, et puis surtout, il y avait un petit goût de match de pay-per-view, rien que l'intro, ça a duré une plombe, c'est le grand traitement, là, pour les filles, avec le public qui était à fond derrière, on fait beaucoup de face-à-face, le match commence, elles font toutes les deux dropkicks. En synchro, c'était effet miroir. Elles se sont relevées toutes les deux pour un stand-off, là, pas piqué des verres. C'est vraiment une grosse ambiance. Bianca Belair provoque Charlotte et dit bah vas-y embrasse mes fesses, ou plutôt comme on dit en français mange mon cul, c'est comme ça qu'on dit hein. Et donc les filles voilà, ça se retrouve un petit peu à l'extérieur du ring. Charlotte balance Bianca Belair par-dessus la table des commentateurs, elle provoque tout le monde. Bianca parvient à faire des tours de force, c'est quand même les deux filles peut-être les deux filles les plus puissantes et athlétiques de la WWE hein, qui s'affrontent ce soir. Mais surtout, elles sont pas juste puissantes, comme je l'ai dit, elles peuvent faire des moonsaults, des preuves de force assez incroyables. Les deux forces quasiment s'annulent, hein, se rendent coup pour coup. Quand Bianca Belair fait une épreuve de force, et bien derrière, Charlotte fait la même. D'ailleurs, Charlotte finit la bouche en sang. On a des chants This is awesome. Et ben il y a de quoi, effectivement, il y a de quoi, puisque les filles sont au bout de leur vie. Hein. Sur la fin du match, là, elles n'en peuvent plus. Elles traînent la patte à l'extérieur du ring. On s'échange des coups de pied, des coups de poing. Ça devient un peu plus de la bagarre hein, sur la fin. Et puis, on se retrouve à nouveau entre les cordes. On tente les tombées, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas s'il y a eu tant de tentatives de tomber, tellement les filles étaient focus sur l'intensité et sur le fait de se rendre coup pour coup. Charlotte fait son moonsault à l'extérieur. Incroyable, ça touche. Bianca se retrouve au milieu du ring. Elle tente de placer ses prises, mais c'est la fatigue, en fait. La fatigue est trop forte. Charlotte place un énorme spear, mais seulement pour le compte de deux. Charlotte ne sait plus quoi faire. Les filles ne savent plus quoi faire. On fait une grosse... voilà, on se retrouve sur le turnbuckle. Et à la fin, le malheur arrive avec Charlotte qui n'a pas d'autre choix que d'aller chercher une chaise et d'attaquer Bianca Belair. C'est la disqualification. Bianca Belair gagne le match par DQ, mais Bianca Belair ne veut pas en rester là. Elle prend la chaise et elle tabasse la Queen. Et c'est cette image incroyable que le show se termine, mon bon tonton.
Brutalement, assez brutalement d'ailleurs, le show se termine. Je ne sais pas quelle version tu as eu toi, mais en tout cas, j'ai trouvé...
Bah, la version que tu n'as pas trop de temps de comprendre ce qui se passe, c'est que...
D'accord, ouais.
Okay, écran
ouais.
Noir.
Mais quel match. Match de pay-per-view. Alors là, je pèse mes mots. Match de pay-per-view. Match énorme. Match de 22 minutes presque. Sans compter les entrées. Non, mais là, Bianca Belair, mais... Alors là, en termes de vraie rivalité athlétique, quant à Charlotte et Bianca, bah là, t'as peut-être le top of the top. La dernière en date qui avait peut-être autant de qualité athlétique comme ça, c'était Ronda Rousey. Et Ronda Rousey, elle donnait peut-être moins une sensation d'athléticité que d'athléticisme, quand ils disent les Américains, que peuvent dégager Bianca et Charlotte. Quoi. Quel match, c'était incroyable. J'ai eu un doute hein, que ça se termine par une DQ, une intervention et tout ça. Je me suis demandé si on n'allait pas avoir un pin clean. Et puis je me suis dit que ouais non un pin clean pour Bianca c'était pas bon juste avant Crown Jewel. Donc du coup non mais là rien à dire hein, franchement on a eu droit à un superbe main event. Là les femmes qui vraiment délivrent encore la marchandise, non c'était excellent. Je suis vraiment je t'avoue que là je revenais même pas. Je voyais le match durer et tout ce qui se passait. Et je me disais, tain, mais c'est fou. Et puis bah ouais, non, c'est ça, hein, les nanas, quand elles s'y filent, c'est solide sur les appuis, et ça t'envoie du gros main event dans le vaisseau amiral.
Ouais, là, c'était... il n'y avait pas de signature de contrat derrière, donc elles avaient jusqu'à la fin du show. Et en plus, cette coupure finale, peut-être que le match durait un petit peu plus longtemps que prévu. Mais si c'est le cas, bah, tant mieux pour nous. Parce que là, c'était, comme tu l'as dit, un niveau pay-per-view. Et j'ai beaucoup aimé, moi, l'intensité, le fait qu'on avait deux phénomènes physiques et athlétiques qui s'affrontaient et qui se sont rendus coup pour coup tout au long du match. C'était vraiment une vraie confrontation physique avant tout. Et il y avait un peu de trash talk, mais finalement il y avait surtout de la bagarre, et puis de la bagarre avec des sacrées prises. Et c'était un sacré main event une fois de plus que les filles nous ont offert. Là vraiment, je pense que là il y a plus de questions à se poser du côté de la division féminine. On tient vraiment on a sous nos yeux les stars quoi d'aujourd'hui et de demain. Et bravo hein, bravo à W de nous proposer un tel programme. En pleine semaine quoi, dans un weekly là, c'est parfait mon tonton. Bon, mais écoute, c'est l'heure d'arriver au mot de la fin. falloir choisir.
Et ouais.
Et notes. Ouais.
C'est la tradition. Ça va être assez facile en fait. Hein. Donc je vais donner de toute façon pour l'ensemble de son œuvre, je vais donner mon flop au Queen's Crown. Ça a vraiment été une catastrophe absolue. Vraiment pour moi, c'est un crash industriel ce tournoi. Alors que j'en entendais beaucoup, je trouvais ça super cool d'avoir cette idée de faire un pendant féminin au King of the Ring, qu'on aurait dû tout simplement appeler le Queen of the Ring. Je pense que ça aurait été déjà tout simple. Et puis booker un autre tableau, organiser d'autres matchs, et que même avec le line-up qu'ils proposaient, je trouve que c'est indécent d'avoir donné 13 minutes de catch à ce tournoi. C'est vraiment là, franchement, allez, on va dire 20 minutes avec la finale. J'ai de l'espoir, je donne 7 minutes. Je ne suis que déception. Et mon top facile, hein, on vient d'en parler, le main event, vraiment extraordinaire main event entre Bianca et Charlotte. Que du bonheur. À voir encore et encore, aller voir les highlights de ce match. Et puis ma note, écoute, c'était plutôt un bon go-home show pour Crown Jewel. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Crown Jewel, c'était plutôt presque un espèce de house show géant dans l'année, et là ça s'est vraiment transformé avec un vrai booking pour le pay-per-view et tout ça. Donc on nous a proposé quand même quelque chose, donc là ça ressemblait vraiment à quelque chose. J'ai trouvé ça plutôt bien, je suis plutôt hypé. Donc dans l'ensemble, à part 2-3 foirages, le truc Mace, Finn Balor, ça qui n'avait pas d'intérêt, le Queen of the Ring, on en a parlé, je vais lui donner une bonne note, je pense à ce rôle, j'ai plutôt kiffé. L'opener, j'ai beaucoup aimé le match avec Xavier Woods. Je vais lui donner un 3,5 à ce Monday Night Raw. Écoute, un 3,5, un beau 3,5. J'ai bien, bien kiffé.
Ok, écoute, moi mon flop, j'ai pas trouvé qu'il y avait de gros flop. Alors, à part, je vais pas tirer sur ambulance, surtout, je crois, j'ai donné déjà ce flop-là au tournoi féminin lors de l'analyse de SmackDown. Moi, je vais donner un petit flop à l'interview croisée entre Goldberg et Bobby Lashley, qui n'a vraiment
ça mérite.
Rien ajouté. Voilà, qui n'a rien ajouté. Limite, ça a dégonflé un peu la baudruche, toi. Genre, ces deux gros Golgoth, tu veux que leurs dernières altercations soient physiques, toi. J'aurais préféré que les deux se retrouvent sur le ring et se tabassent et que ça se finisse en grosse baston. Et pas interview via satellite. C'est assez naze.
Ou pourquoi ne pas organiser un truc avec l'Undertaker et Lesnar aussi, tu te croises dans les coulisses et puis ça part en caouette et du coup tout le monde intervient, tout le locker room, les officiels. Tu fais un segment un peu fun là, mais là c'était c'était Z10h08. Un bon flop des familles, un beau flop catch-up-esque.
Voilà. Et puis mon top, tu l'as déjà donné au main event, je vais le donner à Xavier Woods. Allez, je vais le donner à Xavier Woods, qui vit pour ce tournoi, voilà.
Toi, oui.
Et ça fait plaisir. J'en profite d'ailleurs pour te dire que j'ai regardé, souviens-toi, on en avait parlé, j'ai regardé le film sur Netflix.
Scams and Undertaker. Je l'ai maudit, me spoil pas, j'ai encore rien vu. Je l'ai, j'ai le fichier, mais je ne l'ai pas encore regardé.
Alors, je n'en parle pas.
On pourra peut-être en faire une analyse.
Je le rappelle à ton bon souvenir.
En direct, on vous annonce. On boucle nos émissions en direct. Allez.
Et si on allait. Ma note. Moi, je vais lui donner je suis presque tenté de lui donner un bon 4 quand même. Allez.
Ouais. Ah ouais. Oh là.
Je vais lui donner un 3,75.
Allez.
Ça aurait été un 4 si Bobby Lashley et Goldberg s'étaient mis sur la tronche. Voilà. Ouais, parce que je trouve que ça n'est focus sur ce pay-per-view de Crown Jewel. Et pour un gomme show, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande pour un gomme show. Donc la mission est remplie. Un bon 4 pour cet épisode de Monday Night Raw. Mon bon tonton, on parle de Crown Jewel. C'est l'heure des pronos.
Oui, c'est tout à fait l'heure des pronos. Et on va déjà remercier nos amis qui ont participé sur le Discord. Il y avait un paquet de monde là déjà. Tiens, je vois un IRM, je connais ce mec.
Ouais. Changer en direct, mais...
Ah oui, tu peux encore. Papy, Kyrias, Max Hardy, Jeliel, Raphaël, qui d'autre encore? Bébélu, voilà, il y a eu un peu de monde déjà qui est passé par la case prono. Écoute, on va attaquer direct. Le premier, Mansour versus Mustapha Ali, mon bon IRM.
Bon, pas de surprise, hein, le local de l'étape pour une première belle victoire en solo, je pense, non? Où il avait... Quels sont ses hauts faits là,
Il avait gagné une Battle Royale en solo.
Ouais, voilà, ouais.
Et il avait battu Cesaro. Mais ce mec est
Ah
invaincu de
oui,
toute
c'est vrai,
façon
t'as raison.
à Riyad. Ce mec est invaincu, ce
Effectivement.
mec est une machine à Riyad. Donc je vous préviens, voilà. Mansour, écoute, l'intégralité des votants ont voté Mansour. Je ne vois aucune voix qui s'élève contre ça. Non, tout le monde a voté Mansour. Voilà, comme ça c'est réglé. Allez, ensuite on va attaquer les tournois. Doudrop versus Zelina.
Alors, Zélina.
Zelina.
C'est dur. J'ai envie que ça soit Zelina. Et ouais, Zelina. Il faut qu'il y ait une méchante reine. Elle est parfaite pour ce rôle. Elle est parfaite pour ce rôle. Mais ça veut pas dire. Ouais, si, Zelina.
Ouais, bah moi je mets Zelina aussi. Et Gino, la main froide lui a mis Doudrop. Et il y a Gino, et ils sont deux, je crois, avoir mis Doudrop en l'occurrence.
Ça se tient
Oui, ils
aussi.
sont deux, c'est Max Hardy. Max Hardy, notre ami Max Hardy, il a mis Doudrop aussi, mais c'est quand même Zelina qui remporte la majorité. Allez, de le King of the Ring, la magnifique finale. Alors là, attention, Finn Balor versus Xavier Woods, mon bon IRM.
Ah, c'est dur. Celui-là, il est super dur, je trouve. Et c'est toute la. Je trouve que ce match, il est vraiment super intéressant sur son issue parce que ah, Finn Balor est évidemment le plus fort. Mais Xavier Woods est le plus motivé. Et Finn Balor, King of the Ring, pourquoi pas, mais j'ai presque l'impression. On lui donne quelque chose à manger, toi, après sa défaite à Roman Reigns. Et qui ferait mieux, le mieux vivre cette gimmick? C'est très très dur. C'est très très dur. Je vais rester sur Finn Balor parce que c'est lui que j'avais choisi en premier, mais. Et je veux pas regretter d'avoir changé mon prono, mais pour moi, c'est du 50-50, quoi.
Ouais, là, sur le Discord, on est plutôt à grosso modo 60-40. Ah, quoi que, on est presque à 50-50 aussi, hein, parce que Bébé Lu, Gino la main froide et moi-même, on donne Xavier Woods. Moi, Xavier Woods, de toute façon, je n'ai pas dérogé. J'ai donné, avant le King of the Ring, j'avais annoncé, donc pour l'instant,
Il y a 3 ans, tu l'avais annoncé.
il est en finale, donc c'est parfait. Mais Finn Bálor, il y a donc toi, mon bon patron, il y a Géliel aussi qui donne Bálor, Max Hardy qui donne Bálor, Akirias donne Xavier Woods aussi. Papy donne Baylor. Donc c'est quoi, ouais, on est à 50-50 quasiment, quoi. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est une finale indécise, c'est génial. Moi je trouve que vraiment on est gâté pour ce King of the Ring d'avoir une finale comme ça, tu vois. Et ça va être un beau match. Allez, on continue. Là cette fois on passe au Raw Tag Team Championship. Les RK-Bro face à AJ Styles et Omos.
Les
Ouais,
RK-Bro qui l'emporte.
moi aussi je donne les RK-Bro, pareil. Et écoute, tout le monde donne les RK-Bro, sauf un réfractaire. Et ce réfractaire, il s'appelle Papy.
Ah,
Yeah.
papy qui n'est pas là pour justifier son choix.
Mais ouais, non. Papy a donné AJ Styles et Omos. Écoute, je pense que ça va donner un beau match aussi.
Ouais.
Mais effectivement, moi, pareil, je suis dans la même ligne. Je donne les RK-Bro vainqueurs. Allez, SmackDown Women's Championship. Alors là, attention, là, du triple menace, du triple frite, ça envoie du lourd. Becky Lynch, championne en titre, versus Bianca Belair, versus Sasha Banks. Ouf! Alors là, je sais que là, par contre, ça se partage grave, là.
Ça se partage grave, mais Becky Lynch, moi ouais, je vais rester sur Becky Lynch. Et voilà, on va pour le début d'une rivalité. Mais c'est un peu le bordel, de toute façon. Déjà qu'avec ces titres qui changent, voilà, les deux championnes qui sont interchangées, c'est un peu le bordel. Et du coup, dans tout ce bordel, je pense qu'on va rester sur un espèce de statu quo sur les championnes à la sortie de ce pay-per-view et qu'après, les histoires vont se décanter. Donc je vais rester sur Becky Lynch, The Man.
Eh ben écoute, Gino la main froide, Papy, Max Hardy aussi il me semble, ouais, te suivent sur Becky Lynch. Et après le reste, écoute, Belair n'est cité à aucun moment. Et le reste c'est Sasha Banks. C'est comme moi-même, moi aussi j'ai voté pour Sasha Banks. Donc tu vois c'est marrant, hein, Bianca Belair apparaît pas une seule fois dans les votants. Mais je pense que là, on va avoir un super beau match. Alors, franchement, aucune inquiétude encore une fois sur la qualité de ce match à venir. Je pense que ça va être assez génialissime. Et quel que soit le vainqueur, j'ai envie de dire, de toute façon, on va avoir droit à un beau festival. La seule petite question qu'on peut se poser sur ce match, c'est comment elles vont lutter, dans quelle tenue elles vont lutter, tu vois?
Oui, oh ben, un magnifique jogging toi, de chez Decathlon. Ou là, non, c'est les combinaisons de nage, là. Hein. Un peu ce qu'avaient d'ailleurs Bianca Belair et Charlotte dans l'Opener.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ils ont rivalisé, là, en termes de mode. On voyait bien les muscles, hein, en tout cas. Ça, c'est. Donc, oui, pourquoi pas. Voilà, habillé en bébé nageur, là. En combinaison de plongée.
À voir jeudi soir. Allez, no holds barred match. Goldberg versus Bobby Lashley.
Celui-là, je trouve qu'il n'est pas facile à pronostiquer. Il n'est pas facile à pronostiquer parce que on a évidemment envie que Bobby Lashley gagne. Mais en même temps, Goldberg, il a plus de victoire depuis un bon bout de temps et il n'y a plus le titre en jeu là. Et il y a quand même son fils, là, voilà, il doit venger son fils. Donc moi, je vais sur Goldberg. Hein. Moi, je vais sur Goldberg.
Ah ouais. Ouais, t'es pas tout seul. Hein. Gino, la main froide aussi. Et pareil, il est pour Bilou. Raphaël est pour Bilou aussi. Et ouais. Il me semble que j'en ai vu un autre dans l'affaire.
Moi, je suis pas sûr qu'on soit tant que ça. Hein. Je pense qu'on a tout le monde. On a envie que ce soit Bobby Lashley, mais Goldberg à Crown Jewel, qui a pas eu de victoire depuis un bon bout de temps, qui doit venger son fils. Je sens bien. Je sens bien pour Goldie. Là.
Max Hardy aussi donne Goldberg. Moi, je donne Lashley, comme Kyrias, comme Papi, comme Bébélu. On est à 60-40 là, on va dire, pour Lashley, quoi. Donc tu vois, ça reste aussi quand même assez serré finalement, donc c'est plutôt pas mal. Mais moi, je trouve que c'est un des trucs assez positifs sur ce pay-per-view, c'est que toutes les affiches qu'on annonce depuis le départ sont quand même toutes assez serrées, et ça, c'est plutôt sympa. Allez, Hell in a Cell match, alors là, qui va faire plaisir à notre archange Géliel, puisque là Seth Rollins va affronter Edge dans un match qui s'annonce sanglant.
Celui-là aussi, il est pas facile. Il est vraiment pas facile. Il y a des sacrées affiches. Hein,
c'est hyper partagé là. Encore une fois, là. Encore une fois.
J'aurais même pas te. Toi là, si tu me demandais, je vérifie. J'ai mis pour qui. J'ai mis Seth Rollins. Mais toi, je me serais rendu. On m'aurait dit, ah, bah non, t'as mis Edge. J'aurais pas tilté. J'aurais pas dit, ah non, mais attends, c'est pas possible.
Max Hardy a mis Seth Rollins aussi. Kyrias a mis Seth Rollins aussi. Pareil, encore. On est dans le l'ordre de 60-40 encore une fois. Petit avantage.
Je reste sur Rollins par rapport à toute cette histoire de match en cage. Je réfléchis peut-être un peu trop, mais il y a l'air d'avoir quelque chose par rapport à cette histoire de match en cage. Et je pense que Rollins a besoin de une belle victoire là en cage. Et. Face à Edge, ouais, ça peut être pas mal, mais je parie pas ma maison dessus, quoi.
Oh, Géliel, tu seras pas étonné. À voter Edge. Hein. avec apparemment un Seth Rollins qui va appeler sa maman au secours depuis la cage. Donc ça va très très mal se passer pour Seth Rollins. Moi, j'ai voté Edge aussi. Pareil. Je pense qu'il va vouloir se venger de ce cambriolage-là. Et Papy aussi a voté Edge. Kyrias, tu as voté Seth Rollins, tu vois. Max Hardy, Seth Rollins. Et notre ami Raphaël, il est où? Il a voté Edge, Raphaël. Gino, donc Gino, tu es là. Et Gino, il a voté Edge. Et enfin, Bébé Lu, notre Johanna nationale, elle a voté Edge également. Donc, quand même, un bon avantage pour Edge. Là, on est plutôt dans l'ordre de 70-30. Là.
Oui, non, un Crown Jewel en plus devant le public, un top babyface, méga superstar, qui doit manger sa famille. Finalement, j'applique pas la même logique qu'à Goldberg, alors que je devrais sûrement, toi.
Allez, on arrive sur les deux derniers matchs, le WWE Championship, Big E versus le bel homme, le psychopathe écossais, le Drew McIntyre.
Ah, Big E.
Voilà. Alors, voilà un match dans lequel il n'y aura pas... Il n'y aura pas de problème, puisque là, je crois qu'il y a unanimité. Je n'ai pas vu une seule fois le nom de Drew, de notre beau Drew, apparaître. Eh ben non, écoutez.
Biggie avec un heel turn de Drew McIntyre en weekly. Ah ben non, après, ils se séparent. Ils ne sont pas dans le même...
Ouais, moi, je ne vois pas ça. J'ai vu passer cette affaire de heel turn. Moi, j'en suis pas convaincu du tout.
Non, un match fair and square.
Ouais, je crois que c'est ce qui va se passer. Ça va serrer la pogne au début et à la fin. Ça sera peut-être même un petit câlin. Mais au final, je pense qu'on va avoir un très beau match et victoire de Biggie. Alors là, unanimité totale sur le Discord de Catch Up, mon bon patron, puisque l'intégralité des votants ont voté Biggie. Allez, et puis ce qui va être le main event, hein, parce que je ne vois pas quel autre match que celui-là, peut-être le main event de la soirée, et quel match! Alors là, pour le coup, hein, Crunchyroll, ils ont quand même un peu la baraka, nos amis saoudiens, quoi, parce qu'ils ont le droit au final quand même à un des peut-être plus gros matchs de l'année 2021, en l'occurrence Roman Reigns, la tête de la table, versus le bûcheron Brock Lesnar. Wouh!
C'est-à-dire que dorénavant, on a un WrestleMania tous les 6 mois.
Voilà, c'est un peu ça.
La tête de la table va rester accrochée au corps de la table avec la victoire, enfin la première victoire de Roman Reigns sur ce Némésis, hein, Brock Lesnar, qui n'aura jamais réussi à battre. Et il va voilà, rétablir, corriger le scandale de la Nouvelle-Orléans en terrassant la bête, victoire de Roman Reigns.
Mais, eh ben, écoute, moi je donne Brock Lesnar puisque je pense que c'est justement le contraire qui va se passer et que justement Roman Reigns ne va pas réussir à briser la malédiction et que après un règne de quand il va arriver à Crown Jewel, là il sera à 415 jours, quelque chose comme ça. Et c'est Lesnar qui va briser la malédiction à Crown Jewel qui va gagner le titre. Ah, mais en fait, je suis loin d'être tout seul à penser ça, mais c'est assez équilibré. Hein. Kyrias donne Roman Reigns, Papi donne Brock Lesnar, Max Hardy te suit, hein. Il donne le grand chef de la tribu, la tête de la table, le seigneur Roman Reigns, Géliel donne Brock Lesnar, Raphaël donne Roman Reigns, Gino la main froide donne Roman Reigns, et Bébélu donne Brock Lesnar. Ah ouais, il y a grosse indécision encore une fois autour de ça. Écoute, vraiment, je n'aurais eu de cesse de le répéter, mais je trouve que c'est vraiment à l'image de cette carte de ce Crown Jewel là, et que beaucoup, la majeure partie des matchs en fait sont dans l'indécision, et ça c'est vraiment cool. Là, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que là le Lesnar Roman Reigns, de toute façon là, ça doit être quand même, ça va être un match affolant quoi.
Ah oui, non, ça va être énorme. Il faut qu'il nous offre quelque chose qui avait autant d'intensité. Je parlais de la Nouvelle-Orléans. Au-delà du résultat, il y avait une intensité assez, assez dingue, quoi. C'était un des gros matchs de Brock Lesnar. Tu sais, pas ces matchs qui durent 5 minutes, quoi, mais des matchs qui durent 15, 20, 25 minutes où vraiment ils se mettent sur la tronche et voilà, je veux voir l'intensité. Ou alors ils vont nous offrir. Bah, non, ils vont pas faire ça. Toi, une espèce de twist, quoi, où. Roman Reigns, bah non, il va jamais faire mordre la poussière à Brock Lesnar, il va pas le ridiculiser, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il nous faut un gros match.
Ils vont pas mettre un squash match dans un pay-per-view à je sais pas combien de milliers, à 50 millions de dollars, tu vois. Ouais. J'ai du mal à croire que, à mon avis, le prince de
Saoudien
serait peut-être pas content d'avoir un main event de 2 minutes 30, quoi. Il n'y a pas de stipulation particulière annoncée dans ce match, ça va être un single match. Mais c'est du très très lourd. Je suis très curieux de voir comment va être looké notre ami Brock Lesnar, comment il va venir lutter et voir dans quel état physique il est aussi. Parce que finalement, c'est un peu l'inconnu pour l'instant. On l'a vu qu'avec les chemises coupées au niveau des bras. Et je suis curieux de savoir dans quel état de forme il est. On va voir. Parce que Brock Lesnar, c'est souvent un indicateur. Ça shape, hein, parce que ça indique le niveau d'implication qu'il a dans la rivalité, quoi.
Ouais. Non, bah écoute, on verra. Est-ce qu'il a fondu, pas fondu? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est gras? Est-ce qu'il est toujours aussi musclé? Est-ce qu'il fait toujours peur? Est-ce qu'il a toujours son tatouage dégueulasse? Nous le découvrirons à Crown Jewel. Bon, bah, sacrée carte, hein, mon tour.
Ouais, voilà, sacrée carte. Ouais, 9 matchs, hein. 9 matchs. Hein.
Ouais. C'est, bah, ça, autant ça, de matchs que dans notre weekly, en fait. Sauf que là, ça va durer 8 heures.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, parce que alors là, on va avoir droit à la totale. Hein. Là, c'est quand même l'un des rares pay-per-view où on a du pyro à n'en plus vouloir. À part à WrestleMania, effectivement, il n'y a pas d'autres pay-per-view. On a même le décorum du Royal Rumble, par exemple, qui est quand même pour moi le deuxième plus énorme pay-per-view de l'année. Quoique SummerSlam, hein, cette année, c'était quand même du costaud. Mais là, on est vraiment dans des sphères très, très hautes. Quoi. J'espère que cette année, par contre, les catchers seront un peu mieux reçus qu'il y a 2 ans.
Je veux dire, pas bloqué à l'aéroport.
Ouais, voilà.
Pris en otage à l'aéroport. Ouais. Ouais, on verra. Il y aura sûrement des histoires.
Ouais, hein, c'est sûr.
Ouais, évidemment. En espérant qu'ils reviennent, effectivement. Hein. Je veux pas qu'ils restent pas là-bas.
Et alors, le dernier truc sur Crunchyroll, c'est que Ça passe à une heure européenne. On va pouvoir le voir quasiment en
19h.
direct si on en a la possibilité. Ça
Je crois que c'est
commence à
19h. Hein.
le pré-show à 18h et le main show à partir de 19h?
Ah, je crois que c'est ça. Hein.
Ok, d'accord, ça marche.
On m'a dit 19h. Alors après, je ne sais
Ok.
pas si ça comprend le pré-show, mais à 19h, vous aurez au moins le main event qui commencera, quoi. Enfin, le main show, quoi.
Le main show qui commence, ouais.
Ouais. Bon,
Eh bien,
allez.
c'est parti!
N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos pronostics, pardon. Il vous restera pas beaucoup de temps entre la diffusion de cet épisode et Crown Jewel. Donc voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, balancez vos pronostics avant le début du pay-per-view, soit sur le Discord, soit en commentaire de cette vidéo s'il est encore temps. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager également vos commentaires sur le weekly en lui-même, ce Go Home Show. Est-ce qu'il vous a convaincu comme nous? Est-ce que vous l'avez trouvé solide sur ses appuis? Votre top, votre flop et votre note. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous suivre, il suffit de vous abonner soit sur YouTube où il y aura la vidéo, soit sur les plateformes habituelles de podcast audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou PodCloud, Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, c'est simple, c'est Catch Up CDC. Et le lien vers notre Discord est encore et toujours dans la description. Je te remercie, tonton, pour ta fine analyse et cette magnifique descente de la carte de Crown Jewel.
Écoute, c'est moi qui te remercie. C'était toujours un plaisir d'être en tag team avec toi pour reviewer le vaisseau amiral de la WWE.
N'hésitez pas à nous suivre, évidemment. On vous donne rendez-vous très bientôt pour l'analyse de cette pay-per-view événement, ce WrestleMania de l'automne. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut IRM, salut peuple de catcheurs!
Tu le sens, le squash match?
Le
Le
scandale, le
Suplex
scandale.
City bis. C'est une intervention de Poleman, un super kick de Poleman.
Alors là, le scandale, mais imagine le truc, 40 secondes, quoi.